J'espère que je ne boirai pas cela. Je vais ouvrir le mien, pas me tromper. Alors, ça va chez vous ici ce soir? Vous êtes en forme? Bon, on dirait que les gens sont dispersés dans la pièce. Hein. Ce serait bien si on pouvait s'asseoir au centre, ça me fera plaisir. Hein. Ceux qui sont dans les côtés là-bas, venez au centre, ce serait bon. Si ça ne vous dérange pas, on va mélanger jeunes et vieux, vieux et jeunes, tout le monde ensemble. Et ça, c'est la vraie famille de Dieu. Il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de barrière. Hein? Si je vous demandais ce soir, à votre avis, est-ce que la prière est importante? Est-ce qu'il est important de prier? Ok, c'est bon ça. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus qu'il est important de prier? Les oui ne sont pas nombreux. Mais oui, ils ne sont pas nombreux. Cependant, nous savons que la prière est importante. Tout le monde dit que la prière est importante. Depuis que je suis chrétien, même quand je ne l'étais pas, les musulmans, ils croient que la prière est importante. Mon père, là, il prie. Le soir, après 21 heures, là, il prie jusqu'au matin. Parce qu'il cherche Dieu. Il croit que c'est comme ça qu'il va atteindre Dieu. Parce que dans la mentalité musulmane, ils disent que vers les environs de minuit jusqu'à 5 heures du matin, ils disent que Dieu descend vers les humains sur la terre. Et il dit, quelle est ma créature, mon fidèle serviteur qui m'aime plus que son sommeil et qui va se lever pour m'adorer en ce moment précis où le sommeil est doux et est dans son comble. Alors, celui qui est capable de se lever pour prier en ce moment-là démontre que vraiment, il est un bon serviteur et que Dieu peut compter sur lui. Alors, beaucoup de musulmans prient comme ça. Et mon père fait partie de ceux-là. À un moment donné, il déménage totalement à la mosquée. Imaginez-vous que Michel, moi, tout le monde, les anciens, les frères, on prend nos bagages, on déménage pendant un mois à l'église ici. Puis on dit à nos femmes, bye bye, nous on vient prier tous les jours, pendant 30 jours ici. On est ici, on ne sort pas. On mange, on prie seulement. Ils vont dire qu'ils sont capotés. Hein? Ils vont nous dire ça, non? C'est ça. Mais en réalité, je voudrais que nous comprenions. Depuis quelque temps, nous travaillons dans Éphésiens chapitre, depuis Éphésiens chapitre 1, on est rendu à chapitre 6 maintenant dans le livre d'Éphésiens. Et le chapitre 6 a été élaboré par plusieurs personnes. Alors, et tout récemment, c'est Will qui a enseigné sur les armes de Dieu. Il nous a exhortés à porter les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les jours mauvais. Alors donc, c'est mon tour ce soir de continuer la suite de cet enseignement que Will Pugh a apporté, de porter les armes de Dieu. Et je vais enseigner cela pendant 2 semaines, c'est-à-dire que cette semaine et le dimanche prochain, je vais continuer la suite. Alors donc, après moi, le 29 janvier, il y a Jean-Luc qui viendra faire la conclusion du livre d'Éphésiens. Et là, le livre d'Éphésiens finira par là. Après que Paul ait conseillé aux Éphésiens de porter toutes les armes de Dieu, de se revêtir de toutes les armes de Dieu pour combattre, il vient pour les dire maintenant. Il dit, entrez dans la prière. Il les exhorte à entrer dans la prière, à être des hommes et des femmes de prière. Je me suis posé la question. Quand un soldat, Stéphane n'est pas là ce soir, sinon je lui demanderai, quand un soldat porte des tenues de guerre, est-ce qu'il va au combat? Ou bien il porte des tenues de guerre pour s'asseoir dans la caserne. Habituellement, quand un soldat porte une tenue de guerre, c'est pour être sur la ligne de front, pour se battre. Il ne porte pas ses tenues d'armée et ses bazougas et tout le qu'est-ce qu'il y a avec lui, s'assoit dans la caserne en disant, oui, moi je suis un soldat, je suis habillé pour aller en guerre, mais je suis dans la caserne, confortable, climatisée. Est-ce que c'est ce qu'ils font? Non. Paul demande aux chrétiens de porter toutes les armes. Maintenant, il a dit de prier. Mais quand un soldat porte une arme, il va sur la ligne de front. Et je me suis posé la question, mais c'est bizarre. Tu nous demandes de porter toutes les armes de Dieu. Et après, tu nous dis, on n'a qu'à prier. Mais ça semble bizarre. Je dis, non, ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas bizarre parce que Paul n'indique pas aux Éphésiens, géographiquement, l'endroit où il faut aller combattre. Pourquoi? Parce que le combat que le chrétien mène est un combat spirituel. Il n'y a pas un endroit géographique où il pourrait nous dire, il faut aller là-bas, le diable est là-bas. Non, non, non. Les musulmans, eux, ils disent ça quand ils voient la Mecque. Ils disent, il y a un endroit où le Satan est là-bas, ils vont le lapider. Après le pèlerinage, certains enlèvent leurs soucis, ils le lapident. Chacun le lapide avec ce qu'ils peuvent. J'ai dit, si Satan est vraiment dans cet endroit-là seulement, alors en principe, le reste du monde ne devrait pas avoir de problème. Mais simplement, Paul veut nous faire comprendre que le champ de bataille, ce n'est pas un terrain quelconque qui est là. Le champ de bataille, c'est notre cœur. Le champ de bataille, c'est nos pensées. Le champ de bataille, c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons quand nous partons chercher des âmes perdues dans l'évangélisation. Parce que la Bible nous dit, ici dans ce passage, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les autorités dans les lieux célestes. Vous comprenez? Et c'est ça. Alors j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. On va partir avec ça. Éphésiens chapitre 6. On va le lire. Je vais le lire à partir du verset 10 pour venir à notre thème, pour qu'on soit dans le contexte. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Maintenant, on arrive au verset que nous devons travailler dessus ce soir. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et si Paul est conscient que le combat que nous devons mener est un combat spirituel. Vous êtes d'accord? Parce que Paul nous dit dès le départ, il prévient les chrétiens d'Éphèse, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas celui qui est assis à côté de toi là. Ce n'est pas ton voisin à la maison. Ce n'est pas ton collaborateur au travail. Ce n'est même pas ton patron. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton enfant qui est ton ennemi. C'est ce que Paul est en train de dire. Nous avons un ennemi en tant que chrétien. Il s'appelle Satan, l'accusateur, le diable, avec tout son royaume. Ils sont contre le peuple de Dieu. Et je ne vais pas vous faire peur ce soir, Mais je veux seulement vous amener à comprendre que nous avons des ennemis. Et ces ennemis-là sont invisibles. Et c'est pourquoi, comme c'est des esprits, Dieu nous donne des armes spirituelles afin que nous puissions les combattre. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu vois dans le coin de la rue, puis tu cours avec lui, puis tu vas lui donner des coups de poing à gauche et à droite. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Tu ne peux pas lui donner un coup de pied. Tu ne peux pas lui donner des talons sur la tête quand tu passes. Bon, Satan ici. Tau! Non, il n'y a pas ça. Ce n'est pas possible. C'est dans la prière seulement que l'enfant de Dieu, que le chrétien peut combattre Satan. C'est pourquoi Dieu nous donne des armes spirituelles. Il dit, portez toutes les armes de Dieu afin de résister et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Là, il vient nous dire de faire toutes sortes de prières, de prier en tout temps. Combien d'entre nous prient tous les jours fidèlement? Chrétiens, réfléchissons, combien de temps est-ce que nous passons dans la prière à comparer le temps que nous passons devant la télévision, dans les centres d'achat, devant les Nintendo, devant le Blackberry, devant le iPhone, devant les jeux de texto, quand on texte, quand ça sonne... Tu as l'impression que les jeunes, maintenant, la nouvelle drogue, c'est ça. Quand ça sonne... Même quand ils chauffent l'auto, tu les vois, il y a un message qui arrive, ils regardent, et puis ils conduisent, ils regardent. Ma femme, la dernière fois, était fâchée. Elle venait me dire, parce que moi, j'avais repris quelqu'un, elle m'a dit, Adam, on ne fait pas ça au Québec comme ça, il ne faut pas faire des choses comme ça. J'étais sur le boulevard des Forges. Puis, on a dépassé le cimetière, on allait chez nous. Et on arrive au stop, et à la lumière des Recollets et boulevard des Forges. Il y a une jeune fille qui roulait en voiture, et puis elle était en train de texter. Puis elle était à côté de moi. Et j'arrive, je la vois, on arrive à la lumière, elle est arrêtée. J'arrête mon auto, elle aussi, elle est arrêtée. Puis, je la regarde, elle me regarde. Et puis, elle me dit, à quoi? Elle baisse sa vitre, je baisse la mienne. Puis je lui dis, mademoiselle, vous textez au volant, c'est pas bon ça. Elle dit, mais de quoi je me mêle? Je dis, mais dis donc, je me mêle de ce qui me concerne, mademoiselle. Elle dit, mais pourquoi ça te concerne? Je dis, parce que c'est interdit de faire des textos au volant. Et si tu fais un accident, c'est moi qui vais payer avec mes taxes pour te soigner. Et tu vas mettre ta famille dans le trouble. Tu vas mettre tes amis dans le deuil. Et la société québécoise va être dans le deuil parce qu'on a investi en toi pour que tu ailles à l'université ou à l'école. Et tout cela sera banni à zéro. On investit en toi. Donc j'ai le droit de parler. Et puis tu es un danger pour moi sur la route. Je vous dis que la mademoiselle, elle a monté sa vitre tranquille. Et elle n'a plus regardé son texto. Elle a été. Et puis elle est celle-là. Anne me dit, Adama, on ne dit pas ça au Québec comme ça. J'ai dit, Anne, c'est parce que les gens disent, on ne dit pas au Québec, que nos jeunes, quand tu regardes le taux d'accident qui se passe au Québec, nous sommes en train de perdre notre force vive. La force vive de notre pays, le Québec, est en train de partir parce que combien de jeunes meurent dans des accidents? La plupart des accidents qui arrivent, c'est des jeunes de 16 ans à 22 ans. De 16 ans à 22 ans. Est-ce que si tout le monde les parlait comme ça, peut-être qu'ils vont changer leur façon de fonctionner? Mais parce qu'ils disent que c'est papa et maman seulement qui peuvent les parler, alors donc ils font ce qu'ils veulent quand papa et maman n'est pas là. Alors quand j'ai parlé comme ça, on est parti le même soir. Ma femme, elle aime marcher. Elle est sortie, elle prend sa marche. Et puis elle rencontre un jeune sur un scooter. Il fait quoi? Il texte. Tab! Elle est tellement fâchée. Quand elle est arrivée à la maison, elle ouvre la porte. Elle dit, mais ce que j'ai vu aujourd'hui là, un garçon qui texte sur un scooter, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, tu n'as pas le droit de parler. Au Québec, on ne fait pas ça. On ne parle pas comme ça au Québec. Là, elle a compris. Elle dit, non, mais ça m'a fâché parce qu'il va faire un accident sur un scooter. Tout cela, je vous ai dit cela. Pourquoi? Que dans la vie, Paul nous appelle à savoir que nous avons des ennemis. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi prendre la place. Fermer notre bouche pour ne pas dire ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Et la prière est une chose importante. Beaucoup de gens sont ignorants de cela. Au Québec, pourquoi on n'est pas conscient qu'il y a les mauvais esprits? Quand tu parles à quelqu'un, il y a des mauvais esprits. Il dit, ben dis donc, ça n'existe pas. Pendant les fêtes, je disais à mon neveu qu'il y a des esprits méchants. Il dit, arrête, les esprits méchants, ça n'existe pas. Pourquoi les esprits devraient être méchants? Pourquoi ils devraient être méchants? J'ai dit, tu ne vois pas le mal partout, toi? Et au Québec, j'ai l'impression que les gens en Amérique du Nord, on n'est pas conscient de la présence du diable. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'on a pris tout pour donner aux psychologues, à tous les PPP là, on les a donné tout le travail. Quand il y a un problème, on dit, ah, il faut qu'il aille voir un psychologue. Quand il y a un problème, il faut aller voir telle personne. Tout est entre les mains des médecins. Jamais on ne dit, il faut prier pour la personne, pour intercéder et la délivrance de la personne. Paul dit, on a à lutter contre les esprits dans les lieux célestes. Nous devons passer de temps à prier. Et pour montrer que l'esprit méchant existe, j'aimerais que nous regardions quelque chose que une femme de Dieu, dans le 18e siècle, a écrit un chant qui s'appelle Charlotte Elliot, au 18e siècle, a écrit ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Elle dit, chrétien, ne te repose pas encore. Laisse tomber tes rêves de facilité. Tu es entouré d'ennemis. Veille et prie. Les dominations et les autorités rassemblent leurs forces invisibles et attendent des moments d'inattention. Veille et prie. Veille comme si c'était de cela que dépendait la victoire. Et prie que l'aide te vienne d'en haut. Veille et prie. C'est Mademoiselle Elliot qui a dit ça. Elle nous dit que nous avons des ennemis qui nous entourent et que nous devons faire attention à cela. Nous devons veiller et prier parce que cela est vrai. Et si ce message a été vrai pour les gens de temps du 18e siècle, elles le sont encore aujourd'hui pour nous les chrétiens. Ton frère n'est pas ton ennemi, comme je l'ai dit. Ta femme n'est pas ton ennemi. Tu as un ennemi, il s'appelle le diable et il attend des moments d'inattention pour t'attaquer. Et c'est pourquoi il faut prier. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est la prière. Si le diable était capable de nous empêcher tous de ne pas prier, il le ferait. Si encore il y a des chrétiens et des églises et quelques chrétiens qui sont capables de veiller et de passer toute la nuit dans la prière, c'est parce que encore Dieu a mis sa main sur eux et ces personnes-là, le diable n'est pas capable de rien faire contre eux. Sinon, il nous empêcherait de prier. Et c'est très, très important de prier, la prière. Et si je vous demandais ce soir, à quoi ressemble ta vie de prière ce soir? Si on te posait la question, ta vie de prière, là, elle ressemble à quoi? Alors, j'aimerais qu'on regarde d'autres points par rapport à la prière. Ce que la prière n'est pas. André, je suis parti plus tôt, hein, plus avance. Oui. Ce que la prière n'est pas. On va voir toute cette définition de la prière. Ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas un moyen d'informer Dieu. Est-ce que Dieu, il sait tout? Il est au courant de tout? Avant qu'on ouvre la bouche, il le sait? Mais des fois, on prie, on a l'impression qu'on informe Dieu qui n'est pas au courant. La prière n'est pas un moyen d'informer Dieu. La prière n'est pas un moyen de revendication syndicale. On va prendre des pancartes. On va marcher, Dieu, tu vas faire ce qu'on veut. Sinon, on grève, on ne rentre pas dans le travail, on ne rentre pas à la maison, on grève. La prière n'est pas une revendication syndicale. La prière n'est pas mentir. Quand je prie, je dis la vérité dans la prière. Et la Bible nous dit que Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça voudrait dire quoi? Je n'amadoue pas Dieu dans mes prières. Je ne dis pas comme le monsieur la disait une fois. Il dit dans sa prière, il dit, Seigneur, si tu me donnes 20 millions, c'est certain que je donne 19 à l'église. Et 19 millions, je donne à l'église. Et sa femme lui dit, fais pas ça parce que Dieu peut te le donner. Il peut te mettre à l'épreuve. Il dit, tais-toi, il n'a qu'à me donner. Moi, je sais ce que je vais faire. Est-ce qu'il pense qu'il peut amadouer Dieu? Il pense qu'il peut mentir devant Dieu? Dieu connaît ses pensées. Mais Dieu veut que nous soyons vrais dans la prière quand on prie. On doit être honnête et intègre. Alors, prier, ce n'est pas un moyen de plier la volonté de Dieu. Alors, on va prendre Dieu par sa main, on va tourner dans son dos, on va dire, Dieu, si tu ne me donnes pas ce que je veux là, je ne lâcherai pas ta main. Je vais te torturer. Je vais te tordre, te torturer jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. Beaucoup de gens pensent que quand ils prient, ils peuvent faire ça avec Dieu. Ça ne marche pas. La prière, ce n'est pas un moyen de s'imposer, imposer sa volonté à Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne vais plus à l'église. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne fais plus ça. Ça, on appelle ça comment? La manipulation. On ne peut pas manipuler Dieu. Prier, ce n'est pas un moyen de mettre pression, comme je dis, de la répression ou de règlement de compte. Ce n'est pas non plus un lieu pour se vanter. On le voit dans d'autres passages de la Bible où deux personnes montent au temple pour aller prier. Il y a un qui se vante et il y a l'autre qui ne se vante pas. Et l'Écriture nous dit que celui qui a frappé sa poitrine en disant « Seigneur, aie pitié de moi », qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré à la maison justifié par rapport à celui qui s'est vanté. Je prie 5 fois par jour, je fais ceci, cela, je donne ça. Alors maintenant, regardons, si ceci n'est pas prier, qu'est-ce que c'est que prier? La prière, c'est un dialogue. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu, mais c'est aussi écouter Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est un homme, l'homme créature devant son Dieu créateur. L'enfant devant son Père. Prier, c'est aussi, prier, c'est être vrai devant Dieu sans hypocrisie. Prier, c'est un homme dans l'intimité de Dieu. Quand je prie, je suis dans l'intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi la prière est importante. Quand je prie, je parle avec Dieu, Dieu me parle. Quand je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle. Mais quand je rentre dans la prière, je parle à Dieu et Dieu me parle. Mais quand je lis la Bible, je ne peux pas parler à Dieu. C'est Dieu qui me parle par la Bible. Mais la prière, c'est moi qui parle à Dieu et en retour, j'attends qu'il me parle. Prier, c'est un homme. C'est l'homme à sa vraie place. L'être humain à sa vraie place, à genoux, devant Dieu. La place qui nous convient, c'est là, être à genoux. Prier, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Dans Jean 15, 5, Jésus dit, sans moi, vous n'êtes. Oh, on dirait personne ne m'écoute, je vais arrêter de prêcher. Sans moi, vous n'êtes. Ok, sans moi, vous n'êtes rien. Et quand je prie, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de démontrer à Dieu ma dépendance totale. Je suis en train de dire à Dieu, je ne peux rien sans toi. Peu importe mes dons, peu importe mes talents, peu importe mon éloquence, peu importe mes diplômes, peu importe tout ce que j'ai comme connaissance, ça ne m'exempte pas de prier. Personne n'est exempté de prier parce qu'il est un docteur. Parce qu'il est un avocat, parce qu'il est un juge, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est théologien. Tout le monde est appelé à la prière, peu importe ton rang social. Donc, ça nous enlève l'orgueil en nous et de nous asseoir au pied de Dieu et de montrer notre dépendance de l'Éternel des armées. Maintenant, la nécessité de la prière dans le combat. Paul nous dit, nous revenons à Éphésiens chapitre 6, verset 18. Qu'est-ce que Paul nous dit de faire dans le verset 18 quand nous regardons? Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Paul nous dit de prier en tout temps. Qu'est-ce que cela voudrait dire, prier en tout temps? Prier en tout temps, ça voudrait dire prier toujours. Prier en tout temps, ça voudrait dire prier dans toutes circonstances, dans toutes les situations, dans toutes les difficultés, dans tous les moments que je peux prier, je dois me mettre à prier. C'est ce que Paul nous dit. Pourquoi nous devons prier à tout temps? Parce que nous avons des ennemis. C'est pourquoi n'oubliez pas qu'il nous a revêtus des armements de Dieu pour combattre. Et ce combat-là, ça s'exerce dans la prière. Il dit, c'est pourquoi il nous demande de prier à tout temps. Non seulement je dois prier en tout temps, mais je dois aussi prier. Toujours. Prier sans cesse. C'est ce qu'un Thessalonicien nous dit. Un Thessalonicien 5 nous dit, prier sans cesse. Un esprit dans une attitude de prière. Prier constamment, être constamment en communion avec Dieu. Et c'est ce qu'il nous a demandé, de prier en tout temps. Quand je prie en tout temps, le téléphone ne dérougit pas. Comme on le dit en bon québécois. Alors, comme j'ai donné le côté néfaste tantôt du cellulaire où nos jeunes utilisent, vous êtes tout le temps en connexion avec vos amis. Par Facebook, Twitter, avec l'Internet. C'est ainsi que Dieu veut que vous soyez tout le temps connectés à lui. Que nous soyons connectés à lui. Quand un message vient là, ton ami t'envoie un message, tu fais quasiment une crise devant le téléphone là. Il veut que tu sois connecté à Dieu comme ça, dans la prière. Quand Dieu t'envoie un message là, tu tressaillis de joie. Et c'est ça. Amen. Priez sans cesse. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons voir aussi. Prier sans cesse. Le Seigneur lui-même était un modèle pour nous qui priait sans cesse. Le Seigneur priait tout le temps. Pour choisir ses 12 disciples, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible nous dit qu'il a passé toute la nuit dans la prière. Lui qui est fils de Dieu, qui est descendu du ciel, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais eu besoin de quoi que ce soit, qui est Dieu, avait-il besoin de prier? Mais cependant, l'Écriture nous dit qu'il a passé son temps à prier. Il a passé des fois toute la nuit dans la prière. Des fois, il a passé toute la journée à prier. Des fois, c'est l'après-midi. Des fois, c'est au crépuscule. C'est au lever du jour. Et le Seigneur n'a pas arrêté d'être en communion avec son Père. Avait-il vraiment besoin de ça? Non seulement nous devons prier en tout le temps, mais nous devons prier aussi en tout lieu. C'est impossible de nous dire de prier en tout temps si nous ne pouvons pas prier en tout lieu. Et ça, c'est sous-entendu dans le passage. Quand Paul nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Comment est-ce que je peux prier en tout temps si je ne peux pas prier en tout lieu? Prier en tout lieu. Dieu veut que nous prions en tout lieu. Et quand nous regardons dans Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, et la parole nous dit, ce n'est pas présenté ici dans ce passage d'Éphésiens, mais l'Écriture nous dit, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Dieu veut que des hommes prient en tout lieu. Donc, ce n'est pas interdit que je prie en tout lieu. Je dois prier en tout lieu parce que j'ai un ennemi qui me suit tout le temps. Si tu rentres dans la toilette, tu penses que Satan va attendre à la porte? Il va dire non, il est rentré dans la toilette, il va attendre qu'il sorte de bon. Et puis, il claque les pieds. Non, 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 Satan, il va rentrer derrière toi. Peu importe le lieu où tu te trouves, Satan sera là. Alors, donc, c'est pourquoi nous devons être capables de prier en tout temps et en tout lieu. Et les armes avec lesquelles Dieu nous a équipés, c'est des armes qui ne sont pas lourdes, qui ne nous empêchent pas de marcher. On peut aller partout avec, on peut rentrer partout avec, on peut l'exercer partout. Et c'est dans la prière qu'on exerce ce combat-là. Et si nous ne le faisons pas, quand les jours mauvais viendront, est-ce qu'on sera capable de prier en ce moment-là, de mener le bon combat? Pendant que les choses sont calmes, les soldats se préparent et s'entraînent. Et le chrétien doit s'entraîner dans la prière à tout moment. Parce qu'on ne sait jamais quel moment. Le moment mauvais peut arriver. Le mauvais moment peut arriver à tout moment. Alors c'est pourquoi nous devons passer le temps aussi dans la prière. Prier en tout temps, prier en tout lieu. C'est ce que l'Écriture nous demande. Dans Néhémie, j'aimerais que nous regardions cela. Néhémie chapitre 2, versets 4 à 5. Néhémie était un échanson du roi. Il était assis devant le roi, c'est celui qui permettait. C'est-à-dire que quand le roi devait manger ou boire du vin, Néhémie était celui qui goûtait le vin avant de le remettre au roi. Dans la culture, c'était le fait que si le vin avait été empoisonné, alors celui qui le buvait mourait à la place. Donc, en fait, dans un langage électronique, on va dire que Néhémie était le fusible qui va sauter. Comprenez? C'est un fusible qui saute. On l'a mis entre lui et les autres. Quand ça ne va pas, il saute entre lui et le roi. Alors donc, Néhémie, à un moment donné, a entendu, parce qu'il n'était plus dans son pays à Jérusalem, il avait été déporté. Et dans la déportation, il se trouvait là-bas. Et son frère Hanani était parti visiter Jérusalem. Quand il est venu, il a fait les comptes rendus à Néhémie. Néhémie était tellement déçu, découragé, de l'état dans lequel, l'état lamentable que Jérusalem se trouvait dedans, il a commencé à pleurer et à prier pendant des jours et des mois. Alors le jour qu'il s'est trouvé devant le roi, la face abattue, découragée, le roi lui demande, parce que c'était interdit que tu viennes dans la présence du roi, la mine basse. En bon québécois, avec une face de bœuf. Alors, donc, Néhémie est arrivé, il était découragé. Le roi ne l'avait jamais vu dans cet état-là. Et puis le roi lui pose la question. Et c'est dans ce contexte-là, Néhémie parle ici. Et il dit, le roi me dit, que demandes-tu? Je prie le Dieu des cieux. Et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Néhémie, pendant que le roi lui a posé la question, il a dit qu'il a prié. Mais nous savons, quand nous lisons le livre de Néhémie, nous savons que Néhémie avait déjà prié pendant plusieurs mois. Mais ici, quand le roi lui a posé la question, il dit qu'il a prié. C'est une prière qui a été instantanée. C'est une prière qui a été immédiate. Et là, il fait une demande à Dieu, au roi. Et le roi accepte sa demande. Une preuve pour nous dit que nous pouvons prier en tout lieu. Néhémie a transformé son lieu de service en un lieu de prière. Pendant qu'il était à son poste, toi et moi, chacun de nous pouvons transformer comme Néhémie nos lieux de service en un lieu de prière. Ton bureau peut être un lieu de prière tout en étant à ton poste, en faisant ton service comme il faut. Néhémie n'a pas dit qu'il avait dit, roi, attends, je vais aller prier d'abord, je viendrai te voir, après je vais te donner ma réponse. Il n'a pas dit ça. Ça a été instantané là. Il a répondu. Et le roi a répondu. Comme Néhémie, nous pouvons faire cela. Transformons tout lieu en lieu de prière. Un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu, toute occasion, toute situation, tout problème, tout obstacle, toute épreuve, est un moyen pour entrer en contact avec Dieu. Comme un jeune qui est amoureux d'une jeune fille, il trouve toutes les excuses pour la voir ou pour le voir. Il va partir, il revient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai oublié ma clé chez toi. Prends la clé, il est parti. Il rentre dans l'auto, il tombe, j'ai oublié. On dit, tu as oublié quoi? Il dit, mon téléphone. Tout ça, c'est des excuses pour voir la jeune fille ou de voir le gars. Mais le chrétien devrait saisir toute occasion pour entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Toute excuse, tout obstacle est une situation pour nous de rentrer en prière. Comme des gens disent, si on ne te donne que des citrons, tu peux transformer des citrons en limonade. C'est ça. Donc il y a des chrétiens qui disent, ouais, depuis que je suis chrétien, j'ai trop de problèmes, ça ne marche pas, il y a tel problème, il y a tel ci, ça ne va pas, le diable est sur mon dos, il s'acharne. Mais comme tu as des armes qu'on t'a données, c'est comme un policier qui a toutes les armes, et puis l'ennemi l'achale, et puis il dit, ouais, il a tous les munitions, ouais, l'ennemi est sur mon dos. Mais tu es capable de tirer sur lui? Entre dans la prière, une excuse de rentrer dans la présence de ton Dieu, pour parler avec lui. Plutôt que de se plaindre et de se lamenter. Non seulement il faut prier en tout le temps, mais il faut prier en tout lieu. Mais il nous dit aussi de faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Ce soir, je ne parlerai pas de toutes sortes de prières. Parce qu'on n'aura pas le temps. Dimanche prochain, je vais faire une prédication uniquement sur toutes sortes de prières. Il y a tellement plusieurs sortes de prières que nous devons faire que des fois, il y a des chrétiens qui ne le savent pas ou qui ne savent même pas comment faire toutes sortes de prières. Des prières d'intercession, des prières de louange, des prières d'adoration, des prières de repentance, des prières de reconnaissance, des prières d'action de grâce. Il y en a, on pourra en citer. Et il y a des chrétiens, quand ils prient, leur prière dure, vous savez combien de minutes? 10 minutes, si c'est trop long. Amen, il est parti. Et quand tu pries que tu es long, il dit, tu es trop long, il faut arrêter de prier. Tu es trop long. Vous savez pourquoi la prière devient tannant pour vous ou pour chacun de nous? C'est parce que nous ne connaissons pas les diverses formes de prière. Nous ne savons pas diversifier notre prière quand on prie.
On reste toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Il y a plus que donne-moi. Il y a aussi, Seigneur, je te loue pour ce que tu es. Seigneur, je te bénis de ce que tu as béni mon frère, mon voisin. On viendra sur tout ça plus tard. Tu peux intercéder pour d'autres personnes. Plutôt que de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ça, c'est être égoïste comme un enfant. Un bébé, tout ce qu'il sait, biberon, il remplit les couches, vider la couche, changez-moi, donnez-moi de nouvelles couches. Il remplit, biberon, du lait. Il ne faut pas être comme ça. Un bébé est égoïste. Un chrétien qui ne prie que pour lui-même, là, c'est un bébé dans le Seigneur. Parce qu'il est égoïste. Il pense qu'à lui-même. Mais un chrétien mature, il va au-delà de ça. Il voit d'autres perspectives. Il prie plus que ça. Alors, donc, on va voir cela plus tard. Maintenant, comment prier? Maintenant que nous savons qu'il faut prier tout le temps, nous savons qu'il faut prier en tout lieu, nous savons qu'il faut faire toutes sortes de prières, on va le voir plus tard, mais comment prier? Paul ne se contente pas de dire aux Éphésiens, priez. Il les donne une façon, une méthode. Il les explique comment il faut faire la prière. Ne priez pas au hasard. Quand on est en guerre, on ne gâte pas ses munitions, on ne tire pas dans partout, n'importe comment. On vise et on cible l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? On ne tire pas dans le hasard. Dans la panique, on ne tire pas. Mais on réfléchit. On a des stratégies. On prend des positions stratégiques. Et on se met dans des conditions pour pouvoir gagner le combat. On ne veut pas perdre. Paul dit, si vous priez, faites par l'Esprit. C'est ce qu'il nous dit au verset 18. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Par l'Esprit. Pourquoi prier par l'Esprit? Je vous demande. Pourquoi nous devons prier par l'Esprit? Un volontaire pour me répondre. Parce que je suis devenu monologue maintenant. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Ça, c'est vrai. On va arriver dessus. Vous comprenez? Et il y a des raisons pour ça. Pourquoi nous devons prier par l'Esprit? Nous devons prier par l'Esprit parce que l'être humain est capable de faire beaucoup de choses par la chair. Nous devons prier par l'Esprit parce que nous sommes capables d'évangéliser par la chair, de bâtir des églises par la chair, de faire beaucoup de travaux par la chair. Par nous-mêmes, l'être humain est capable de faire ça. On peut faire plein de choses par la chair. Mais Paul dit, le combat que nous avons à faire, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les mauvais esprits. Donc, comme notre ennemi est spirituel, et que la bataille est dans un contexte spirituel, ça prend des armes spirituelles proportionnelles à l'ennemi, et ça prend que le croyant doit rentrer dans un état spirituel pour mener le combat. C'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, priez par l'Esprit. Et Jésus, toutes ses prières étaient faites par l'Esprit, c'est pourquoi il pouvait dire. Dans Jean 11, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Prier par l'Esprit, c'est prier intelligemment. Prier par l'Esprit, c'est prier efficacement. Prier par l'Esprit, c'est assurer un exaucement vrai et sincère. Quand je prie par l'Esprit, c'est impossible que Dieu ne m'exauce pas. C'est impossible. La preuve est que toutes les prières de Jésus ont été exaucées. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été exaucé. Pourquoi? Et la Bible nous dit pourquoi nous devons prier par l'Esprit. On peut regarder cela ensemble. Dans Romains 8, 26. Un volontaire peut le lire pour nous? Romains 8, 26 à 27. Maurice Ricard, le jeune homme parmi les jeunes, tu peux le lire, s'il te plaît? Amen. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Nous devons prier par l'Esprit parce que nous ne savons pas comment prier. C'est ce que l'Écriture nous dit, que nous ne savons pas comment prier. Les disciples de Jésus ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier. » Je pense que nous devons tous faire cette prière-là. « Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à être capable de prier comme toi. Apprends-moi à faire des prières intelligentes et bien ciblées. De ne pas gaspiller mon temps, mais d'investir mon temps dans des prières qui vont porter des fruits. » Et dit, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. L'Esprit organise ma prière parce que nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Mais lui, en tant que la troisième partie de la Trinité, il connaît Dieu. Il sait comment notre prière peut lui être agréable. Il connaît comme un consultant. J'ai un frère à la maison, Pudjuma Traoré, qui est consultant. Il aime ficeler les projets pour l'université et pour que ça marche. Et j'étais étonné que j'avais quelqu'un de doué à la maison chez nous. Et Dieu lui a donné ce talent-là. Mais c'est vrai. C'est vrai, j'étais surpris. Et Dieu lui a donné ce talent-là. Il connaît tous les bailleurs de fonds au niveau mondial. Et quand il ficelle le projet pour une entreprise ou pour l'université, c'est impossible que les bailleurs de fonds rejettent parce qu'il connaît qu'est-ce qu'ils demandent. Il sait qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'il faut. Alors, il va étudier le dossier, il va préparer le dossier et quand il va déposer sur la table, on appelle ça un dossier béton. Vous comprenez? Un dossier béton. C'est-à-dire que le bailleur de fonds, même quand il prend là, il regarde là, il sait que ça répond à toutes leurs exigences. Il ne peut pas dire non. Ça marche. Et le Saint-Esprit connaît Dieu. Parce qu'il est la troisième personne de la Trinité. Et quand il ficelle notre prière devant Dieu, c'est sûr que Dieu va l'accepter. Amen. Et l'Écriture dit que nous ne savons pas prier. C'est pourquoi l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Si Jésus-Christ s'est laissé diriger par le Saint-Esprit, nous avons besoin de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, avec toute sa puissance et sa connaissance, il a eu besoin du Saint-Esprit pour le prendre par la main, pour le conduire, pour qu'il puisse accomplir les plans de Dieu. Pour qu'il puisse faire ce que Dieu, pourquoi Dieu l'a appelé sur la terre. Nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit, non seulement pour prier, mais aussi pour faire d'autres choses, afin que ça soit des choses qui vont avoir des résultats éternels dans l'éternité. C'est seulement par l'Esprit que les choses de Dieu, qu'un enfant de Dieu peut porter, poser des actes qui ont une conséquence éternelle importante. Amen. Priez par l'Esprit. Il nous demande. Et dans Éphésiens, il nous donne la deuxième raison pourquoi il faut prier par l'Esprit. Dans ce cas-là, dans Éphésiens, puis André, j'ai beaucoup avancé, c'est ça. Dans Éphésiens, il nous dit, « Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » La raison pourquoi nous devons prier par l'Esprit, parce que nous avons un ennemi féroce, un ennemi qui ne se cache pas, un ennemi qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors, c'est seulement en esprit qu'on peut le combattre. Et si nous combattons avec l'Esprit de Dieu, c'est sûr que la bataille, on peut la gagner. La victoire est possible. Mais sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir mener nos batailles et gagner. Alors, prier par l'Esprit, ça nécessite certaines choses quand même là. Prier par l'Esprit, ça nécessite que nous ayons une vie de repentance. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas vivre prier par l'Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 59, 2, « Non, la main de Dieu, l'oreille de Dieu n'est trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour nous sauver. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, et ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous écouter. » Donc, quelqu'un qui est dans le péché, anyway, il ne peut pas dire qu'il prie par l'Esprit. Il faut qu'il confesse son péché et qu'il se mette en règle avec Dieu avant de commencer à prier par l'Esprit. Ça, c'est clair. La sanctification fait partie de la vie du chrétien. Ce n'est pas une option. Ça doit faire partie, c'est impératif, c'est tous les jours. Nous devons marcher dans la sanctification. La lecture de la parole de Dieu est importante dans notre vie. Un chrétien qui ne connaît pas la parole, comment il va combattre le diable? Dans Matthieu 4:4, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand le diable lui a posé des questions, il a répondu par des versets bibliques. Et même quand le diable est parti chercher des versets bibliques pour venir, Jésus a répondu par d'autres versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les Écritures. Donc, il savait manier les deux armes. Il savait prier, mais il savait manier aussi l'épée de la parole de Dieu. Dans notre conscience, le champ de bataille, dans notre cœur, quand le diable vient te proposer des choses, comment tu vas le combattre? Ce matin, on a entendu parler de la sagesse. Alors, ta connaissance de la parole va te dire, ça, c'est pas correct. Je vais m'éloigner de ça. Je vais faire tel choix. Le diable va te proposer d'aller faire du mal. Tu vas savoir si tu lis la parole de Dieu. Et tu pourras utiliser la parole pour combattre. Et comme je vous ai dit, notre pensée et notre cœur, c'est le lieu de champ de bataille. Et je vous le dis, si tes pensées, ta pensée, ta volonté, si les deux se sont unis ensemble et qu'ils ont pris une décision ensemble, ton corps n'est qu'une machine pour exécuter ce que ta volonté et ta pensée ont décidé. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit de préserver nos pensées. Et dans d'autres thèmes, en Proverbe, il dit « Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et le cœur, là, ce n'est pas le muscle qui bat le sang, là, qui pompe le sang, là, ce n'est pas ça. C'est notre être intérieur qui est fragile. Et Dieu nous dit de préserver cela. Et le diable va toujours chercher à infiltrer des pensées dans notre pensée pour essayer de nous détourner de Dieu. Mais c'est la connaissance de la parole. Et c'est dans la prière qu'on va pouvoir réfuter ces pensées et ces propositions qu'il nous fait. Quelqu'un me disait cette semaine, c'était... Puis du moins, c'est quand est-ce que la Véronique est venue à la maison là? C'est quand ça? C'était vendredi? Vendredi, pas ce vendredi, l'autre vendredi passé. C'est une sœur chrétienne qui est venue nous visiter. Et on discutait. On a parlé ensemble de tout. Et puis, on est arrivé, c'est une personne qui a connu des moments difficiles, on est arrivé sur des situations où on parlait de la sexualité. Comment gérer sa sexualité quand on est seul? Quand on est célibataire? Tu as des problèmes. Et puis, il m'a demandé. Et puis elle dit, mais puis dis-moi, toi tu as été marié, ça fait 7 ans, 8 ans, tu n'as pas de femme dans ta vie, et puis tu marches droit, comment tu fais? Puis dis-moi, elle a parlé. Puis moi aussi j'ai parlé. J'ai dit, quand je n'étais pas marié, quand j'étais célibataire, est-ce que je n'avais pas des pulsions? Oui, j'avais des pulsions. J'avais un grand lit avec deux oreillers. Quand je tourne dedans, je ne rencontre personne. Je vais là-bas, je ne rencontre personne. J'ai dit, Seigneur, mais le lit est grand, trop grand pour moi seul. J'aimerais rencontrer quelqu'un là. Je veux une femme. Je n'ai pas fait comme l'autre mademoiselle qui est partie acheter un pantalon, mettre dans son lit. Dieu met un homme dedans. Je n'ai pas fait ça là. Mais j'ai prié. Parce que la fille, elle a trouvé que c'était trop chaud. Elle voulait un homme, il n'y en avait pas, il n'y en a pas. Elle est allée acheter un pantalon à Walmart et puis elle vient déposer, elle prie. Elle dit, Dieu met un homme dans ça. Je me demande si elle a pensé à la taille du pantalon aussi, en choisissant l'homme. Mais quand on a discuté, je leur ai dit, moi, quand j'étais seul, est-ce que je n'avais pas des pulsions? Oui. J'avais des tentations? Oui. Il y avait de belles filles partout? Oui. Mais qu'est-ce que je faisais? Je lui ai dit que moi, j'ai pris la pyramide de Maslow, je l'ai appliquée dans ma vie. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Si tu n'as pas les besoins primaires, tu ne penses pas à l'autre besoin. C'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens de te nourrir, tu ne penses pas acheter une maison. Si tu n'as pas une maison, tu ne penses pas te marier ou bien tu ne penses pas... C'est certains besoins primaires. Si tu n'as pas ça, tu ne cherches pas à aller plus loin. Moi, j'ai appliqué ça dans ma vie. Quand ça me perturbe et que mes pulsions sont fortes, là, j'ai dit, ouais, c'est parce que j'ai trop mangé. C'est parce que j'ai mangé, je suis bien rassasié, que lui, il ne veut pas rester tranquille, mais il veut me créer des problèmes. Je rentre dans le jeûne et la prière. Je commence à jeûner. Je commence à prier pendant des jours. Je vous dis, quand vous avez faim, quand vous avez vraiment faim et que tu rentres dans le jeûne et la prière, ton corps a faim. Honnêtement, là, excusez-moi le mot, là, la caquette, ça ne bouge plus. C'est sûr. Il ne veut rien savoir, il veut manger, il veut la nourriture. Tu vas aller prier, je vous le dis là. Tu as faim, Les désirs sexuels, il n'y en a pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ton corps veut manger, il veut boire. Des fois, dans ton sommeil, là, tu rêves même que tu es en train de boire de l'eau, tellement que tu as faim. J'ai dit, moi, ça a été un moyen pour moi de combattre l'impudicité dans ma vie, de combattre la pornographie, de combattre la masturbation dans ma vie. Et ça, c'est des choses que l'ennemi place devant nous. Nos jeunes sont confrontés à ça. Les vieux sont confrontés à ça. Tout le monde est confronté à ça. Mais comment tu vas t'en sortir? L'ennemi te dit, mais la fille, là, tu ne peux pas la voir. Mais si tu vas sur l'Internet, tu peux faire ci. Quand tu connais la parole de Dieu, que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne et de louange soit l'objet de nos pensées. Alors, je vais chasser cette pensée-là parce que la parole de Dieu me dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées. Alors, si mes pensées sont soumises à la parole de Dieu, ces choses-là, je les combats. Je les combats et j'ai la victoire dessus. Amen. Vous êtes capables. Nous sommes capables. On peut, si on veut. C'est aussi comme ça. L'ennemi nous propose des affaires comme ça. C'est de connaître la parole de Dieu et dans la prière et de combattre ces choses-là. Maintenant que nous savons que nous devons prier à tout temps, en tout lieu, faire toutes sortes de prières, nous savons cela. Alors, nous savons qu'il faut prier par l'Esprit, mais nous devons persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière. Hein, on dirait mon affaire là, ça ne marche plus. Hein. Billy? Ah! J'ai appelé ton nom seulement, l'ordinateur a eu peur. Ah! L'affaire est sortie ici, là. Alors, donc, nous devons persévérer dans la prière. Non seulement nous devons faire des prières en tout le temps et en tout lieu, nous devons faire toutes sortes de prières, mais nous devons prier avec persévérance. C'est ce que le texte nous dit quand nous le lisons. Il nous dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit, des prières de supplication, veillez à cela avec une entière persévérance. Qu'est-ce que ça voudrait dire persévérer pour vous? Un volontaire pour me répondre. Persévérer, ça voudrait dire quoi? Hein? De ne pas arrêter. Quoi d'autre? Continuer. Malgré les obstacles. Constance. Quoi d'autre? Aller jusqu'au bout. Je persévère. Je ne persévère pas parce que c'est facile. Quand on parle de persévérer, parce que c'est difficile. Vous êtes d'accord? Je persévère. Tiens bon. Go. Avance. Bouge. Va de l'avant. Tiens bon. On va réussir. Dieu est avec nous. Combat. Tiens bon. Tiens bon. Amen. Et on persévère. On est constant quand il y a des problèmes. On est constant dans la prière. On persévère jusqu'à obtenir le résultat. Et Daniel, dans la Bible, a persévéré. Et la Bible nous dit que quand il a ouvert la bouche pour prier, le premier jour, sa prière a été exaucée dans le ciel. Et quand Dieu a envoyé sa bénédiction, il y a un ange des Perses, prince des Perses, qui a intercepté la bénédiction de Daniel. Mais pendant ce temps, Daniel a prié pendant 21 jours. Il a persévéré dans la prière. Et quand l'ange Michel est venu lui donner la bénédiction, il lui dit, quand tu as ouvert ta bouche, le premier jour, tu as été exaucé. Mais l'ange des Perses, le prince des Perses m'a intercepté en chemin. Et j'ai eu besoin de l'aide pour combattre avant d'amener ta bénédiction. Des fois, ta réponse tarde parce que Dieu veut que tu persévères dans la prière. Des fois, ça arrive que l'ennemi veut bloquer ta bénédiction. Mais il faut que tu persévères dans la prière jusqu'à l'obtention de la bénédiction que tu as demandée. Jacob a prié, il s'est battu avec Dieu toute la nuit jusqu'au matin. Et il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas aller. Cela est arrivé, il a été béni. Nous devons persévérer dans la prière. Le temps est parti. Maintenant, en conclusion, d'avoir notre conclusion. À quoi ressemble ta vie de prière, mon frère et ma soeur? Est-ce que nous prions par l'esprit ou par la chair? Sommes-nous capables de prier en tout temps et en tout lieu? Sommes-nous persévérants dans la prière? Nous avons des ennemis qui ne nous font pas cadeau. Si vous avez remarqué les armes spirituelles que Dieu nous a données, il n'y a pas une arme qui protège le dos et les jambes derrière. Donc dans la bataille, nous n'avons pas, le chrétien ne peut pas donner dos à l'ennemi. Il est obligé de foncer en avant et de réussir la victoire. Il ne peut pas reculer, tourner dos pour courir parce que son dos n'est pas protégé. Son dos et ses jambes. Mais quand le chrétien est assis et qu'il est à genoux en train de prier et qu'il remporte la prière, la victoire dans la chambre de prière, c'est puissant. Quand Moïse, sur la montagne, avec ses amis, on priait pendant que Josué menait la bataille contre Amalek dans les vallées. On a dit que quand les bras de Moïse descendaient, Israël gagnait. Mais quand les bras de Moïse montaient, Israël gagnait quand les bras de Moïse montaient. Et quand les bras de Moïse baissaient, Israël perdait. Jusqu'à ils ont mis un rocher derrière, mais il a eu deux personnes pour tenir ses bras dans la prière. Ils ont remporté la victoire. Ce n'est pas Josué et ses vaillants hommes qui ont remporté la victoire d'abord, mais c'est Moïse avec ses amis sur la montagne de la prière. Quand ils ont remporté la victoire sur la prière, la victoire dans la salle de prière s'est répercutée sur le champ de bataille et Josué et ses amis ont remporté la victoire. La victoire dans tous les jours que vous voyez est une prière, une victoire qu'on a acquise à la maison avant de voir le résultat sur le terrain. Ta vie aujourd'hui sont les conséquences des décisions que tu as prises hier. Ce n'est pas les décisions que tu as prises aujourd'hui qui ont agi aujourd'hui. Alors, il en est comme ça pour notre vie. Et pour terminer avec ce point, quelqu'un a écrit cette prière, je ne connais pas d'origine, mais j'aimerais que nous la lisons. Et j'ai été touché par cela. Excusez-moi, ma feuille était loin. Il dit, personne n'est plus grand que sa vie de prière. Le pasteur qui ne prie pas s'amuse. Les gens qui ne prient pas s'égarent. L'église moderne est pauvre et faible. Il y a beaucoup de gens pour organiser, mais peu pour agoniser. Beaucoup pour s'amuser, mais peu pour prier. Beaucoup pour flâner, mais peu pour lutter. Beaucoup de spécialités, mais peu de spiritualité. Beaucoup de gens pour contester, mais peu pour intercéder. Les deux choses indispensables à la vie chrétienne victorieuse. Si je n'arrive pas à vous m'aider, tu vas appuyer parce que je lis là. Les deux choses importantes, indispensables à la vie chrétienne victorieuse sont la vision et la passion qui naissent et s'entretiennent tous deux dans les supplications. Le ministère de la parole est donné à quelques-uns, mais celui de la prière, la plus importante, est donné à tous. Le ministère de la prière est donné à tout le monde. Notre monde avance vers un enfer vertigineux. Cependant, plusieurs d'entre nous seraient incapables de se souvenir des dernières veillées de prière en faveur de ce pauvre monde. Il nous manque de compassion et d'inspiration. Nous confondons action et onction, agitation et réveil, décision et conversion. Est-ce que ça continue? Voyez, je n'avais pas cliqué. Et il continue encore. Il dit, le secret de la prière, c'est la prière en secret. Et celui qui vit dans le péché, cessera de prier. Et celui qui prie, cessera de pécher. Et nous sommes pauvres et faibles, mais non brisés. Misérables, mais non humiliés. On ne peut nier que le problème de l'église moderne est souvent problème d'argent. Or, ce qui nous trouble le plus aujourd'hui était le moindre des soucis de l'église primitive. Eux mettaient l'accent sur la prière. Nous, nous mettons l'accent sur l'argent, sur l'action. Nous, nous allons de l'avant en payant. Eux, ils secouaient le monde en priant. Nous, rien ne peut remplacer la prière fervente. Nous nous y consacrons ou nous périssons. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de nous aider. Je veux confesser mon péché que je ne prie pas aussi suffisamment comme je devrais le faire. Comme Samuel l'a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, pour Israël. Seigneur, je crois que j'ai péché, personnellement. Je n'ai pas prié suffisamment comme je devrais le faire. Pour ton peuple, suffisamment pour les leaders de cette église aussi, suffisamment pour les membres de cette église, suffisamment pour chaque personne ou chaque croyant. Et je voudrais te demander pardon. Lave-moi, purifie-moi. Donne-moi la passion de prier. Et donne la passion à chacun de nous ici, Seigneur. La passion de passer du temps dans la prière avec toi. De trouver le plaisir de passer des moments intimes avec toi, Seigneur. Je t'en supplie, aide-nous, notre Dieu. Apprends-nous à prier comme tu as appris à tes disciples. Apprends-nous à trouver du plaisir dans ta présence, à trouver notre joie dans ta présence, Seigneur. À faire de ta présence notre lieu de plaisir et de joie et de délices. Fortifie-nous et donne-nous de ne pas oublier que nous avons des ennemis et de combattre le bon combat. De mener le combat qui glorifie ton nom. De ne pas se tromper d'ennemi, Seigneur. Et de combattre le bon ennemi au lieu de combattre nos frères, nos sœurs, nos dirigeants et nos amis. Mais donne-nous de pouvoir combattre le bon ennemi, qui est le diable. Fortifie-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre patience.